Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Et on retrouve tout de suite Danny Dubé. Bien le bonsoir, Danny.
Salut Mario.
Rémi, tes émotions. On a eu beaucoup d'émotions hier. Puis la défaite aussi, c'est des émotions, hein, même quand c'est pas celle que le public souhaite.
Ben, c'est sûr. Mais écoute, perdre l'avance, là, c'est moi dire, le gars, c'est jamais le fun. C'est clair que c'est une déception. Les entraîneurs aiment pas perdre l'avance. Il y a personne qui aime ça. Être dans une situation où tu dis, bon, ben là, j'ai le contrôle du match, puis tout à coup, oups, ça t'échappe. Il y a personne qui aime ça.
Non, absolument. Puis, remarque que tout sport confondu, Danny, je n'avais pas pensé de rebondir là-dessus, mais les équipes, leur marque était très, très tôt dans le match, mais les équipes qui ont l'avance, dans la plupart des sports, tu regardes du sport au-delà du hockey, il y a une tendance à s'asseoir dessus.
Ouais, mais c'est peut-être pas la bonne. Moi, j'ai de la misère avec cette expression-là, s'asseoir dessus, là, mais je comprends ce que tu veux dire, mais t'es plus en mode défense, là.
Ouais.
Ça, c'est clair. Mais il reste que c'est normal de, ou n'importe qui arrive dans une situation où il a l'avantage, il veut contrôler.
Oui.
Ça va de soi. T'as l'avantage, tu veux contrôler. C'est toi qui gères. Oui.
Mm-hmm.
Puis, des fois, vouloir trop contrôler, ben, là, tu te places dans des situations où tu concèdes aussi de l'espace ou des situations que toi, tu considères pas importantes. Puis là, ben, des fois, ça ouvre une boîte à surprise. Tu arrives dans des situations où tu es moins... Je donne un exemple. Là. Une équipe qui est rapide, qui tire de l'arrière, elle va souvent avoir des bons chiffres en troisième période.
Parce que l'adversaire protège en avance.
Oui, puis elle donne la zone neutre un peu plus, mais par contre, elle protège beaucoup l'entrée dans le territoire. Ça fait que ça se peut qu'en zone neutre, tu sois capable de prendre la vitesse. Ça se peut que tu marques des buts, puis finalement, tu perds le match pareil. Puis tu dis, comment ça qu'on gagne pas, puis on gagne, mais on gagne toujours juste la troisième période. Ben, c'est parce que tu prends pas l'avance. Ben
exact. Et tu as déjà identifié, Danny, chiffre à l'appui, que le Canadien éprouvait des difficultés en deuxième période. Mais exactement, en lien avec ce que tu dis là, c'est que la troisième, ben, t'sais, souvent, ça leur permet, je dirais pas de... C'est un peu péjoratif de la manière que je vais le dire, mais je vais le dire comme ça me sort, c'est que ça te permet de sauver la face, t'sais, dans ton effort puis dans ton niveau de performance, alors que dans le fond, tu étais sorti du match.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais en même temps, c'est normal que l'équipe... Puis là, il faut quand même dire une chose qui est importante par rapport aux entraîneurs. Les entraîneurs, là, une fois que tu as l'avance, ben tu veux être en situation de contrôle, mais aussi, la chose très importante, c'est que tu veux utiliser ton banc. Tu veux avoir l'opportunité de faire jouer tous tes joueurs pour ménager un peu la monture.
Oui.
Tu te dis, écoute, là, pourquoi... Pourquoi je brûlerais mes gars quand je mène par 2 buts, 3 buts? Fait que j'essaie d'utiliser tout mon personnel, mais à travers mon personnel, j'ai aussi des joueurs qui sont un petit peu moins fiables ou qui ont plus de difficultés à gérer le cadran parce que, bon, à un moment donné, la nature étant ce qu'elle est, ta troisième, ta quatrième ligne, surtout si tu es une équipe de 500 ou un peu moins que 500, ça se peut que ta 3 et ta 4 sont un petit peu moins de coffre. Là. Ça se peut que ce soit plus difficile pour eux. Là.
Tu m'allumes,
mais ils jouent quand même.
Oui, justement. Mais est-ce que tu penses que ça va rattraper l'équipe de donner aussi peu de glace à son quatrième trio aussi régulièrement qu'il le fait, Martin?
Ben écoute, lui, Martin, là, c'est un compétiteur puis c'est un winner. On part avec ça. Là. Tu peux pas avoir un gars... Puis tu sais, c'est rare que tu as des coachs qui... comme lui, ont eu des carrières, mais des super carrières, là, au temps de la renommée, c'est pas rien, là. Puis qui deviennent des entraîneurs. Mm-hmm. C'est rare. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'équipe du Canadien, en termes de caractère, ressemble à son entraîneur. C'est pas une équipe qui lâche, là.
T'as
pas vu souvent le Canadien s'effondrer et dire, oh, tu sais, là, on va attendre la prochaine. Non. Cette équipe-là ne lâche jamais. Et c'est un peu à l'image de l'entraîneur, puis je dirais des entraîneurs, parce que là, on parle beaucoup de Martin, parce que c'est le gars de chez nous, puis c'est lui qui est l'entraîneur-chef, mais je regarde les gars qui sont avec lui, il y a du caractère derrière le banc. Là. Il y a personne, c'était des joueurs qui étaient courageux, c'était des joueurs qui avaient du caractère. Fait que,
ah, puis qui ont pas eu une carrière toute cuite dans le bec aussi. Là. C'était un dénominateur commun pour tous ces gars-là.
Oui, ah oui c'est vrai, c'est un bon point. Oui.
Mais je reviens à l'élément, donc, de oui, il veut faire jouer tout le monde, mais là, quand le match, il n'y a pas bien de match facile pour le Canadien, hein, puis un gars compétitif veut les gagner. Fait que qui est cop? Évidemment, ce sont les gars. Fait que, tu penses-tu que sur un calendrier de 82 matchs, à un moment donné, puis tu sens-tu déjà, puis remarque qu'il n'y a pas personne qui achète ça, l'élément fatigue, mais il reste que le quatrième trio. Je te dis que c'est rare. Quand Evan jouait ça à 4, lui, jouait un peu plus parce qu'il jouait à des avantages numériques. Mais ouais, les gars ça. De 4 actuellement, c'est du 6, 7, 8 minutes, c'est une grosse soirée. Fait que ça veut dire que les autres, remarque, ça lui permet d'en donner en masse à ses trois premiers trios. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je me demande juste si c'est quelque chose qui peut rattraper l'équipe, là. Surtout ceux qui sont surutilisés.
Je pense pas que le quatrième trio est un facteur dans le match pour le Canadien de Montréal. Parce que le Canadien de Montréal, c'est pas une équipe qui contrôle son adversaire. Le quatrième trio, c'est important pour des bonnes équipes. Pour pas surtaxer tes bons joueurs, puis tu prends l'avance, tu contrôles l'adversaire. Mais là, ton quatrième trio, il est beaucoup plus impliqué. Tu sais, les soirs où on a eu des confrontations contre des équipes ici à Montréal qui étaient de très bonnes équipes, ben après deux périodes, si l'équipe mène, ben ils t'en soupoudent du quatrième trio, t'en mettent dans la face, là, comme dirait l'autre. Parce que, évidemment,
ils ont un rôle,
puis ils contrôlent le match. Fait que, mais quand tu contrôles pas ton match, c'est difficile d'utiliser ton quatrième trio. Tu sais, faut que les gens.
Mais ça te rattrape-tu à un moment donné?
Ben, ce qui te rattrape, c'est de pas avoir de contrôle sur l'adversaire.
OK.
C'est de toujours courir après l'adversaire, de pas être en contrôle dans les matchs. C'est ça. Ça, c'est sûr que ça a un impact. Mais en même temps, tu sais, tu regardes le Canadien frais et dispo au mois d'octobre, le Canadien du mois de novembre avec le calendrier, le Canadien actuellement. Ben, c'est sûr que tu as des portraits différents, là. Tu sais, le Canadien, dans le premier mois de l'année, jouait pour plus de 650 son pourcentage. Ça veut dire qu'ils ont accumulé 12 des 18 points sur la table. Ils vont aller chercher 12 des 18 points sur la table. Puis, à ce moment-là, ben écoute, c'est 20% en avantage numérique, c'est 85% des avantages. Écoute, tout baigne, là. Mais là, il y a eu les blessures, il y a le calendrier, il y a un paquet de facteurs qui viennent affecter une équipe comme celle du Canadien, qui affecte peut-être moins d'autres équipes. Tu vois des équipes qui sont mieux nanties, puis des équipes à maturité, ils perdent deux joueurs. Oui, ça leur fait mal, mais ça les empêche pas de gagner. Mais il y a d'autres équipes, c'est du plomb dans
l'aile. Il y a moins de marge de manœuvre, c'est sûr. Puis regarde à domicile, Danny, ça doit t'interpeller également. Puis bon, le Canadien qui n'a gagné qu'un match à ses 9 derniers matchs à domicile, le match contre Seattle, les attaquants ne marquent pas, le club en général marque pas beaucoup de buts en première période. Hier, c'était une surprise, mais il y a juste Monahan qui a un but en première période là, à maison depuis le début de l'année. Le Canadien compte 2,81 buts à domicile dans ses 16 parties jouées en moyenne, et en donne un de plus, 3,87. Donc, systématiquement, en moyenne. Fait que, as-tu l'impression qu'il joue mieux sur la route? T'as le dernier changement pourtant à la maison. Comment tu t'expliques qu'on n'ait pas de meilleure fiche que ça à la maison?
Ben, c'est très mystérieux. Il y a des équipes pour qui c'est très difficile à expliquer. Là. Tu demandes aux Kings de Los Angeles, quoi, ils gagnent tout le temps sur la route puis ils ne gagnent pas à la maison. C'est mystérieux. Mais une des choses qui est claire, c'est que tu es plus rigoureux dans le système. Tu joues un jeu plus serré à l'étranger. Ça, c'est sûr. Les joueurs font plus attention à l'étranger qu'à la maison, ça c'est sûr. Quand je dis faire attention, c'est la longueur des présences, les confrontations que les entraîneurs placent sur le tableau avant le match. Tout ça c'est pris en compte. Fait que c'est sûr que ça paraît là dans l'attitude des joueurs, dans le comportement des joueurs. Ça c'est évident. T'as toujours un petit peu plus d'attention de tes joueurs à l'extérieur qu'à la maison. Puis là, il y a toute la vie à la maison, puis il y a tout ce que ça comporte là. Puis je suis pas dans le quotidien de personne, mais c'est sûr que ça a un impact. Alors, moins t'as de de munitions, plus tu dépends des mêmes joueurs, parce que t'as une équipe n'a pas beaucoup de profondeur. Mais à la maison, si t'es bon joueur, je joue pas bien, mais dans le tour.
C'est sûr et certain, pour appuyer en chiffres ce que tu disais sur les Kings, et on en a parlé quand ils sont venus à Montréal, parce qu'ils étaient à la quête d'un record. Ils ont 11 victoires, une défaite et une défaite en prolongation sur la route. Ils sont 5-5-3 à la maison. Les meilleures fiches à domicile dans la Ligue, puisqu'on parle de ça rapidement, l'Avalanche Colorado a 11 victoires, 4 défaites à la maison, 11-2-2 pour Vegas et 11-3-1 pour les Canucks de Vancouver. Alors, ce sont les meilleurs dossiers. Maintenant, tu as peut-être pris connaissance, on échangeait des textos aujourd'hui, Michel Therrien, les Blondes disent 2-1 à la maison, si j'ajoute. Michel Therrien dit hier, il disait, on se comptera pas d'histoire, là, ce que je vois, c'est que c'est une équipe, le Canadien régresse. C'est quand même un coach de la Ligue nationale qui a coaché deux fois le Canadien.
Il dit quoi, Mike, lui? C'est quoi son, je l'ai pas lu son affaire, là. C'est quoi qu'il dit?
Ben, grosso modo, c'est qu'avec des chiffres, dont ceux que je t'ai mentionnés, la production de Caulfield, la production de beaucoup de joueurs, le fait que les attaquants sont parmi les moins productifs de toute la Ligue nationale dans les bas-fonds, la récolte de points, le fait que même parmi les meilleurs joueurs, on sent pas rien de tangible en termes de production. Il dit, on va se le dire, c'est un club qui actuellement me donne des signes que ça régresse.
Ben écoute,
es-tu d'accord?
Ben, pas dans le mois de décembre. je regarde les. Je reviens, moi, je me fie aux chiffres, là. Tu regardes, au mois de novembre, c'est le pire mois du Canadien. Il était à 13% d'avantages numériques, 75% des avantages numériques. Ils ont gagné seulement 10 des 28 points disponibles sur la table. Ils jouaient pour 357. C'est horrible, là. Là, depuis le début du mois de décembre, il joue pour 500. Bon, c'est pas génial, là, mais il joue pour 500. Ils sont à 16% d'efficacité en avantage numérique. Et 16 points kicks, c'est pas terrible. C'est pas terrible non plus en désavantage numérique, 71%. C'est même horrible. Fait que c'est sûr que il y a des facettes du jeu où on sent qu'il y a des difficultés. Mais tu sais, pour moi, est-ce qu'ils sont en régression? Ils sont juste. C'est juste une équipe de 500.
Ils comparent à l'an passé aussi, globalement. Ils comparent à l'an passé aussi.
Ah, c'est pareil. Il n'y a pratiquement pas de différence entre les chiffres l'an passé et cette année. Je pense qu'il y a une victoire ou deux victoires, là, mais tu sais, on est 3-4 points de différence. C'est une équipe qui n'a pas de profondeur. C'est une équipe qui est affectée par les blessures. Puis malheureusement, je suis obligé de dire que. C'est une équipe qui produit pas assez, les joueurs clés produisent pas assez à 55. Mm-hmm. Tu sais, qu'à ta meilleure ligne, là, ton capitaine n'a pas produit un seul but à 55 depuis la fin du mois de novembre, du mois d'octobre. Fait que c'est tout novembre au complet, pas un but à 55. Fait que là, tu dis, à ta minute.
C'est
là,
de la faute du capitaine ou des gars qui jouent avec un peu aussi?
Ouais, écoute, c'est tout. Tout est dans tout, ils disent, là. Tu sais, tu peux trouver. Caulfield qui est. Ouais, puis l'autre. Mais, je veux dire, le joueur de centre, c'est lui qui est le cœur du trio. Puis moi, je pense que Nick Suzuki, il a des chiffres corrects en avantage numérique. Mais ses chiffres à 55 sont. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est le jeu à 55. Parce que pour moi, c'est le meilleur indicateur. Tu sais, là, quand tu regardes, mettons, à 55, le Canadien de Montréal, le 2 novembre, OK? Mm-hmm. Le 2 novembre, où le différentiel était plus 9. Quand même pas pire. Là,
oui,
tu sais, c'était les bonnes équipes de la Ligue, là.
Oui.
Là, au différentiel, au 2 décembre, ils sont plus 1. Puis là, au différentiel, ils sont dans le négatif, à 55.
Là, est-ce que tu parles de l'équipe ou de quelques individus, Danny,
non,
juste pour bien suivre
de l'équipe,
OK.
De l'équipe.
Et là, tu découpes ça en tranches.
Ouais, par mois, parce que tu peux pas regarder ça et dire, ah, ben
tu
là...
Tu vois l'évolution. Tu veux voir si on est toujours retour à case départ, là.
Ça fait que moi, c'est pour ça que je te disais tantôt, bon, je te donne...
Oui.
Le mois de novembre, c'est un mois terrible pour le Canadien. Tu sais, c'est 13% en avantages numériques, c'est 75% en désavantages, c'est horrible. Ce qui tue le Canadien actuellement, c'est son désavantage numérique. Parce que il n'y a pas un mois dans l'année, OK, je te dis, là, il n'y a aucun mois dans l'année où le Canadien a été dans le positif quand tu compares les buts en avantage numérique versus les buts en désavantage numérique. Ils ont toujours donné dans le mois plus de buts en désavantage qu'en avantage numérique. Ça, c'est systématique dans les trois mois, même avec des bons chiffres. Tu comprends?
Oui.
Fait que là, à un moment donné, tu dis, hey, attends une minute, là. Ça veut dire qu'on marque des buts en avantage numérique, mais on n'est pas capable de sortir la tête de l'eau. On est toujours en train d'essayer d'avoir le dessus au niveau du pointage. Puis moi, mon indicateur, tu sais, on a tous nos tableaux de bord, là. On regarde les matchs, mais Michel, probablement, il a son tableau de bord à lui, puis il a coaché dans la Ligue nationale, puis c'était un bon entraîneur, tu sais. Moi, tu sais, c'est correct, là, tu sais, il fait ses affaires, je fais les miennes, nous autres, on. Mais moi, l'indicateur ultime, c'est le jeu à 5 contre 5. Pour moi, là, quand tu as un bon joueur dans ton équipe, qui est considéré un de tes meilleurs joueurs, puis il ne produit pas à 5 contre 5, pour moi, là, les lumières sur mon tableau de bord, ils allument. Ça veut dire quelque chose. C'est, il y a plusieurs facteurs, là. Tu peux pas commencer à tirer des roches puis dire c'est tout de sa faute. Mais c'est, pour moi, c'est un indicateur très puissant. Parce que les meilleurs joueurs à 5 contre 5, c'est habituellement tes meilleurs joueurs en série. C'est pas un gars qui est bon en avantage numérique qui tout d'un coup devient un bon joueur en série. C'est un joueur qui est bon à 5 contre 5. Pourquoi? Parce qu'à 5 contre 5, t'as pas de place.
Ouais, puis on sert les sifflets en fin de saison, puis en séries éliminatoires, plus souvent qu'autrement. Il y a des années qu'on était un petit peu plus rigoureux. Par ailleurs, t'as tout à fait raison, je suis d'accord avec ça, puis on l'a vu, puis c'est prouvé qu'il y a des équipes qui ont réussi sans nécessairement s'appuyer sur un avantage numérique. Mais dans la situation du Canadien ou des équipes du dernier tiers, t'as besoin que ton avantage numérique te donne un petit but de temps en temps. Des fois, t'as gardé la tête hors de l'eau, puis c'est pas tout le temps concluant. Comme hier, l'avantage numérique de fin de troisième période, le 4 contre 3 en prolongation. Tu serais-tu tenté de... Puis tu sais, tu regardes l'alignement, il n'y a pas 56 solutions non plus, Danny, on va être honnête, là, mais vois-tu quelque chose? Puis je suis sûr qu'eux, ils songent, Alex Burrows, Martin Saint-Louis ensemble, et tout l'État, tous les coachs à trouver des solutions, mais vois-tu quelque chose qui n'a pas été essayé à même les effectifs autour?
Ben oui, moi, je l'ai dit une couple de fois, là, je peux bien le répéter, c'est ceux qui l'ont pas entendu, mais moi, dans la structure de la première unité en avantage numérique, tout près du poteau, ce serait ni Nick Suzuki qui est là actuellement, ni de l'autre côté Monahan. Moi, ce serait Slavkovski qui serait là.
On a vu des flashs de ça hier, Danny. Tu es d'accord?
Oui, mais Slavkovski pas en bas. Moi, je voudrais qu'il soit près du poteau, ce qu'il appelle la position low post. Je voudrais que ce soit lui qui soit là.
OK.
Puis j'explique pourquoi. Parce que c'est le meilleur joueur pour garder la rondelle puis la protéger. C'est pas le meilleur tireur, puis ses problèmes en réception de passe lui causent des problèmes lorsqu'il décoche des tirs appuyés. Donc, c'est pour lui, là, actuellement, si tu veux optimiser ce qu'il a sous la main, si tu veux le développer, peut-être c'est mieux de le mettre ailleurs puis laisser faire ce qu'il doit faire pour apprendre.
OK.
Mais moi, je pense que la meilleure place pour le faire jouer, pour avoir des résultats rapidement, c'est près du but. Pourquoi? Parce que quand tu lui donnes la rondelle, s'il n'y a pas de jeu, là, lui, il peut rentrer, là, moi j'appelle ça, tu sais, et le jeu tourniquet, revenir tout de suite vers le poteau, puis rentrer vers le poteau opposé. Puis là, ben, le gardien est obligé de faire un arrêt. Le gardien est obligé de sortir les jambières, il est obligé de s'agenouiller. Le défenseur est obligé de venir sur lui. Écoute, il est gros, là, il est fort. Là, c'est sûr, lui, il occupe la défensive. Là, tout à coup, là, derrière lui, qui sont au point de mise en jeu de chaque côté, c'est qui? D'un bord, c'est Nick Suzuki, de l'autre bord, c'est Caulfield. Mm-hmm. Les autres, ils rentrent après, là. Les autres sont là pour le retour de lancer. Puis ça, c'est une option. Ça, c'est à part les jeux en transversal. Ça, c'est à part le gars qui est en haut dans l'enclave. Moi, je mettrais un... Bon, peut-être que ça peut être Monahan. De toute façon, il est déjà marqué à cette position-là. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'en bas, le Canadien est pas assez agressif pour rentrer au filet. Quand ils ont la rondelle en bas, c'est toujours pour une passe transversale. Tout le monde le sait. Il se couche à terre, il place les bâtons. C'est fini, il n'y a plus de jeu. Mais si le gars qui est en bas décide de, tu sais, qui appelle le stuffer le puck, là, de rentrer à rondelle directement au filet pour un jeu, là, ça va créer une situation qui va être chaotique, une situation qui va demander de l'ajustement, où il va y avoir des rondelles libres. Puis souvent, dans les rondelles libres, les deuxièmes chances, les déviations, etc., etc. Il y a beaucoup de buts marqués comme ça dans la Ligue nationale. Puis à mesure que ça va avancer, il va en avoir encore plus des buts marqués comme ça. Puis le Canadien de Montréal, je suis bien à l'aise avec tout ce que on essaie de faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la culture,
oui,
c'est bâti à partir de croyances, mais c'est aussi bâti à partir... Les croyances amènent des actions, puis ces actions-là sont répétitives. Puis c'est ça qui bâtit une culture. C'est qu'à un moment donné, ça revient, ça devient des standards, ça devient ce qui te caractérise, toi. Parce que ce que tu fais chez vous, c'est pas fait de la même manière ailleurs.
Mm-hmm.
Alors là, Moi, je pense que sur l'avantage numérique, il y a une culture à bâtir.
En terminant, est-ce que Heinemann entre dans l'alignement, tu penses, pour le match de samedi? Est-ce que tu penses qu'on veut le voir? Martin Saint-Louis a répondu assez rapidement. Aujourd'hui, on vient de dire que c'est un gars qui reprend le beat. Là. Est-ce qu'on est prêt à insérer un gars qui reprend
c'est
le
ça,
beat
il
dans l'alignement?
Beaucoup il était beaucoup blessé, mais honnêtement, ce que j'ai vu qu'en entraînement, j'ai bien aimé.
Oui.
Puis, c'est un gars qui est capable de qui a un bon engagement physique. C'est un gars fort. Je pense pas qu'on a sous la main un joueur vedette, mais c'est un joueur de soutien qui a beaucoup à offrir, vraiment. Alors, écoute.
Ben, c'est un de nos plaisirs de découvrir ces gars-là, ceux voit être peut-être des éléments importants du Canadien dans le futur, à travers tout ce qu'ils vivent. Ben, c'est intéressant. Comme on le fait avec Struble, là, depuis quelques semaines, là, qui monte.
J'aime Struble, puis à un moment donné, j'espère qu'à un moment donné, Struble va devenir un spécialiste de la défensive. Je pense qu'il est capable de faire ça. Là, je sais, il a marqué des buts, là, mais je pense pas que ça va être un défenseur offensif, mais je pense qu'il y a des aptitudes pour devenir un gars qui peut prendre des minutes en désavantage, entre autres.
Il y a beaucoup de belles aptitudes, mais écarterais-tu qu'il puisse avoir des aptitudes offensives aussi avec les. Parce que c'est pas deux buts de piment qui a scoré, là.
Non, mais c'est des buts où il a entré dans le fond de la zone. Tu sais, c'est des buts
c'est pas la place
comme
où il...
quatrième attaquant, ouais. Comme sur une vague et tout ça. Un de ses deux buts est avec le quatrième trio.
Oui.
Correct là, mais tu sais, pour moi, c'est pas un indicateur.
Okay.
Tu sais, c'est pas. Tu sais, les gars qui ont vraiment du potentiel marquer des buts, ils marquent les buts de la ligne bleue. Ouais. Là, tu dis, oh, OK, là, lui, c'est un long range, il y a un tir, il est capable de lancer de loin puis de dévier, de défier le,
d'accord.
Les gars défensifs, de défier les gardiens du haut des cercles. Tu sais, des gars, quand tu vois un joueur compter un but entre la ligne bleue puis le haut du cercle, tu dis, OK, là, il y a quelque chose. Lui,
comme David Savard hier, tu sais, c'est pas sa signature, mais méchant beau but de David Savard hier, je le souligne en terminant, c'est pas ça.
Mais il était plus bas, hein. Il était rendu au point de mise en jeu, David, quand il a compté. Fait que c'est ça, là. Tu sais, il y a toute une différence entre les 10-12 pieds que tu vas chercher quand tu rentres au milieu de l'enclave, puis même quand tu descends un peu plus profondément, c'est pas le même genre de but. Donc, c'est sûr que ces buts-là, ça demande pas nécessairement les mêmes attitudes. Mais si tu cherches des gars qui peuvent générer de l'attaque. Puis là, tu sais,
Mais une chance que nos défenseurs, ils vont de temps en temps, Danny,
parce qu'on ne se comprend pas souvent. Non, mais tu as bien raison. Mais je regarde, là, l'avantage numérique, ça nous dit à quel point on a besoin de quelqu'un sur l'avantage numérique qui est vraiment un quart arrière, qui a de quoi offrir pour dire qu'il devient une menace. Quand il y a la rondelle, c'est une menace. Puis, je sais pas si c'est Lane Hobson qui est cette menace-là.
C'est tous le nom qu'on a en tête.
Mais on verra bien. Ça va prendre un peu de temps. On va garder une petite gêne pour lui.
Ouais.
Mais il est bon.
Il est bon. Puis ceux qui étaient bons de même, ça n'a pas pris tant de temps que ça avant qu'ils deviennent bons en haut, mais quand même.
C'est la grâce qu'on souhaite.
Danny, un gros merci. Bonne fin de soirée.
Merci, bye.
Bye-bye. On revient tout de suite.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ouais, nous voilà de retour. Deuxième heure de l'émission de ce soir. On aura Maxime et Guillaume avec nous tout à l'heure. Antoine Roussel qui sera avec nous en direct également dans les prochaines minutes. J'ai très hâte de voir de quoi il va me parler. D'ailleurs, il m'a donné un beau pot de beurre d'érable produit de sa... pas de sa sucrerie, mais de sa cabane à sucre. Très, très bien emballé d'ailleurs. Mais Antoine a quelque chose à me raconter. Il m'a dit ça hier, sa passerelle. Mais je sais pas de quoi il va me parler, mais il avait l'air bien excité à l'idée de m'en parler. Alors, ça ne pas manquer. Donc, le Rooster qui est avec nous dans quelques instants, et aussi Maxime et Guillaume. Mais d'entrée de jeu, nous accueillons notre ami André Tourigny, l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. Bonsoir, André.
Salut, Mario. Comment ça va?
Ça va bien toi-même, André?
Ça va très bien.
André, le mot constance, c'est quoi? En anglais, c'est quoi constance?
Consistency.
Tu le prononces-tu souvent?
Ouais, pas mal à tous les jours. C'est, les résultats sont pas tout le temps constants. Il faut que la performance le soit. C'est ça qui est trompeur dans les résultats. T'sais, si tu regardes notre exemple, là, on a une série de 5 victoires où ça a commencé avec 3 bonnes games. On a vraiment bien joué. On a joué Tampa, Vegas, puis Colorado. Après ça, on a joué une game moyenne contre Saint-Louis. On a gagné pareil. T'sais.
Oui.
Puis la game d'après, on a joué contre Washington. On a joué une bonne game. C'était, ça a bien été. Mm-hmm. La game d'après, on a joué contre Philadelphie. On a bien joué, mais on n'a pas gagné. Mais tu sais, après ça, la Boston, on a bien joué, mais on n'a pas gagné. Après ça, on a joué à Buffalo, là, on n'a pas bien joué. Après ça, on vient de jouer contre Pittsburgh, on a joué une bonne game. Fait que tu sais, c'est les résultats ont l'air qu'on a joué 5 bonnes games, puis là qu'on vient de jouer 4 mauvaises games. C'est pas ça. Des fois, tu vas jouer la Ligue nationale, il y a 2 bons clubs qui jouent un contre l'autre. Fait que ça se peut que tu joues une bonne game et que tu gagnes pas, là.
Absolument. Et d'ailleurs. Oui,
ça
vas-y,
se peut
pardon.
Que deux clubs jouent le. Ça se peut que deux clubs jouent pas le meilleur match, puis tu peux gagner la game pareil, ou ton goaler peut en sortir une, ou quelque chose de même. Fait que, des fois, les résultats se trompent pas.
Je suis tout à fait d'accord, André, mais je disais à des gens, toi, tu m'as l'air, tu sais, on se connaît pas personnellement, là, on s'est croisés, puis on a passé des bons moments ensemble à la radio, puis en studio également, mais tu m'as l'air d'un gars constant. Puis peut-être que c'est pas vrai, mais tu t'as l'air d'un gars constant. Est-ce que je me trompe?
Oui, moi, mais tu sais, pour moi, c'est les. Mon focus est toujours la même chose, dans le sens que c'est l'effort, la performance, le focus, l'attention au détail. Fait que pour moi, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, c'est pas là-dessus que je vais focusser. C'est vraiment sur la façon qu'on l'a fait. Puis c'est là-dessus que j'interviens tous les jours. Fait que mon humeur ne change pas en fonction des résultats. Je suis constant là-dessus à tous les jours. Mon message est constant.
Comment est-ce que c'est en prêchant par l'exemple, en étant un homme et un leader constant, que est-ce que c'est la meilleure recette pour amener tes athlètes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient des vétérans généralement, mais à être aussi constants dans leur performance? Ou as-tu une recette pour les guider vers ça?
Ben, c'est aussi ton message. C'est ton message. Si ton message varie selon la victoire ou la défaite, c'est parce que quand que tu commences comme entraîneur, on m'a parlé pour moi quand j'ai commencé comme entraîneur, tu veux gagner, tu veux être un gagnant, tu veux que les gens pensent que tu sois un gagnant, tu veux que les gens sachent que, quand je dis les gens, autant tes joueurs qu'exemple, oui, oui. Que les parents ou quoi que ce soit, les partisans, tu veux que ce monde-là pense que tu es un gagnant, etc., etc. Quand tu prends de l'expérience à un moment donné, tu comprends qu'à tous les jours, tout le monde veut gagner. T'as pas besoin de rentrer dans la chambre et de dire aux gars qu'il faut vouloir gagner aujourd'hui. Là. Demain, ils veulent tous gagner. Donc, c'est important d'amener le focus à ce qui va faire qu'on va gagner. Pas si on veut gagner. C'est sûr qu'on veut gagner. En tout cas, on passe n'importe quel sport. C'est, qu'est-ce qu'on a à faire pour nous aider à gagner? Puis c'est ça qu'il faut amener le focus là. Donc, quand mon message après le match, il faut qu'il soit cohérent. Je peux pas dire aux gars, voici ce qu'on a à faire aujourd'hui. Puis on le fait bien, puis on ne gagne pas à gain, puis là, commencer à chialer après eux autres.
Non.
On a fait ce qu'on a demandé, puis écoute, ça va arriver des games que même quand on le fait, ça se peut que ça marche pas, ça se peut que l'autre équipe soit chanceuse, ça se peut que nous autres, on soit malchanceux, tu sais, il y a une partie de chance là-dedans, ça se peut que ça soit juste, on avait des bonnes intentions, des bonnes actions, mais on a eu de la difficulté à exécuter, on a échappé des rondelles ou quoi que ce soit. Fait que c'est important que ton message soit cohérent. Faut que ça suive, là. Tu sais, faut que ta reconnaissance de la performance, faut qu'elle soit en relation avec ce que tu lui demandes de faire.
Tu trouves-tu que ton groupe, plus tu progresses avec ton noyau, qu'ils sont de plus en plus constants, puis pour finir avec ça, parce qu'on en parle beaucoup de constance avec les jeunes équipes, et est-ce que tu identifies les mêmes raisons qui expliquent qu'un joueur manque parfois de constance, ou souvent les mêmes joueurs?
Non, je pense que l'expérience va t'amener à être plus constant, dans le sens que le nombre de jours que tu as A-game. Tu sais, mettons, dire, quand tu es plus jeune, quand tu as des bonnes jambes, quand tu as de l'énergie, quand tu vois bien le jeu, tu as des bonnes mains, tu prends une bonne décision, tout va bien, là. Ben, ça, mettons, ça arrive X nombre de fois. Ben, toutes les autres fois, là, tu n'as pas comme de ressources. Tu essaies juste de retrouver ta A-game. Mettons qu'on va dire que ta A-game, elle arrive 3 fois sur 5. Mais là, les deux autres fois, tu n'as pas de ressources pour dire, OK, aujourd'hui, ça va moins bien, donc je vais simplifier ma game, je vais m'assurer d'être du bon bord de la rondelle, de gagner mes face-offs, de gagner mes battles sur body, de faire d'autres choses qui vont faire que, même si j'ai pas mon exécution d'habitude, même si j'ai pas ma vitesse d'habitude, je suis un bon joueur pour l'équipe quand même. Fait que La différence, c'est qu'un gars, mettons, qui a beaucoup plus d'expérience, sa moins bonne game, ça va être une game B. Un jeune, ça se peut que ça soit même une game D des fois. Ça se peut que ce soit une game C, ça se peut que ce soit une game D. Quand tu arrives avec des... Tu sais, Sidney Crosby, là, des games C, il n'y en a pas.
Ben, écoute, je suis content que tu mentionnes son nom parce que j'allais exactement là. André, vous venez de les affronter. Puis il était en ville hier. Il n'y en a pas, je ne sais pas s'il y en a bien des plus réguliers que lui.
Non, c'est ça, tu sais, exactement. Tu sais, tu prends Connor McDavid quand il a commencé. C'était justement ça. C'est, ou bien il y avait une game qui faisait 5 points, ou bien ça ne marchait pas. Là, tu sais, il devient un joueur plus complet. Il doit être un bon joueur pour son équipe, malgré le fait que des soirs que ça marche pas, ça va pas bien, la pas qu'à bondir au-dessus de ma palette, quoi que ce soit, pour qu'il soit capable d'avoir une B-game, un autre genre de game qui va pouvoir t'aider là, à être efficace.
Qu'est-ce que tu as pensé des Pingouins à votre dernier match chez eux? C'était une victoire de 4-2 des Pingouins. Je pense que le dernier but était un filet des âges, je ne me trompe pas, André? Ou...
Ouais, exact.
Fait que c'était
exact.
Serré, donc un match d'un but, grosso modo. Là.
C'est ça, exact. Ils ont scoré deux fois en power play pour une fois en désavantage numérique. C'est une équipe qui met beaucoup de rondelles au filet. Ils ont beaucoup de trafic aussi au filet. Ils ont un bon timing. Ils sont durs à défendre. Ils sont très durs à défendre. Faut que tu sois capable de les attaquer pour avoir la rondelle. Ils ont deux autres, ce qui est pas leur force.
Hey, c'était le fun. Le jeune Coulet, tu l'as envoyé à la première mise en jeu face à Crosby. Il y a une histoire derrière ça où tu étais conscient ou tu étais...
C'est un gars de Pittsburgh. Puis c'est un gars qui est cool. C'est un gars qui a, il a commencé à jouer dans le programme que Sidney Crosby avait bâti là-bas. Sidney Crosby il a bâti un programme un petit peu comme les Timbits là-bas.
Wow.
Quand il est arrivé à Pittsburgh. Fait que quand il a commencé à jouer au hockey, il était là-dedans. Fait que je trouvais que c'était une opportunité. C'était sa première game à vie à Pittsburgh. Fait que j'avais pensé que.
Ben, c'est de la classe.
C'est comme Paul Morris, il a dit, tu sais. Ça arrive bien qu'une fois dans une carrière jouer un premier game chez vous. Là. Que,
c'est le fun, faire ça, André. Hein? Ça doit être le fun. Je veux dire, ta chambre doit toujours bien réagir de ville en ville. Je ne dis pas qu'il y a une histoire dans chaque ville, là, mais des petits gestes de même. Là,
non,
hein?
C'est ça. Exact, c'est ça. Il y a des petits gestes là-dedans, des fois, là, que tu peux. Quand l'occasion se prête, puis quand le joueur là, performe, là, tu sais, je savais que l'autre bord, là, il mettrait Crosby. Fait que c'est cool, il y avait l'opportunité de prendre un fichier avec. J'ai mis deux bons alliés avec lui, fait que ça a bien été.
C'est une bonne nouvelle, toujours pour une organisation, quand un de ses prospects est recruté pour une équipe nationale pour le championnat du monde junior, comme c'est le cas de Maverick Lamoureux, André?
Exact, ben oui. Pour moi, c'est extraordinaire, parce que je ne sais pas comment ça va aller, Maverick. T'sais, on a Connor Geeky là-bas aussi. T'sais, pour moi, là, si ça monte... être 7e défenseur ou 13e attaquant pour Geek, c'est correct, c'est de l'adversité. Ça fait partie du développement. Là. Puis là, à partir de là, comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter là-bas, quel genre de coéquipier tu vas être, comment tu vas réagir avec les médias, comment tu vas réagir avec ta famille, ça s'apprend, ça, parce que l'adversité, tu vas en avoir. Tu sais, toi, Mario, tu n'as pas eu la carrière que tu as eue sans l'adversité.
Oh non.
Il y a des bouts que c'était tough. Là. Fait que tu sais, Ça, c'est correct dans la vie d'en avoir d'adversité. Tu sais, on a eu Dylan Gunter, qui n'en est pas, il y a 2 ans. Le championnat du mort junior, il a été cancellé, mais Gunt, il était là quand même, puis à un moment donné, ça allait moins bien, il était à sa 4e ligne, etc. Puis l'année suivante, quand il y était, ben, l'année passée, ça allait super bien, puis il a scoré le but gagnant, puis, etc., etc. Les deux, c'est deux bonnes expériences. Tu sais, si ça va bien, puis Maverick est un très bon tournoi, puis il est content de lui, puis il gagne la médaille d'or, ça va être bon pour lui dans sa carrière, il va emmener ça avec nous autres, puis on espère pour le mieux. Mais s'il vit de l'adversité, c'est bon aussi, il va apprendre de ça. Parce que l'adversité, il va en avoir encore. Faut que ça s'apprend, ça. Ça s'apprend pas dans les livres d'expérience, ça s'apprend en étant dans la situation, puis c'est à un moment donné, ça se peut que mentalement ça soit bien dur, ça se peut que physiquement ça soit dur, ça se peut que tu comme athlète, à un moment donné, tu vas aller faire des blessures, il faudrait que tu passes au travers, il faudrait que tu surmontes des épreuves. C'est correct que ça arrive. C'est pas moi, je suis pas le genre à dire ah non, faut pas que ça arrive. Non, il faut que ça arrive. Ça va arriver. Fait que quand ça va arriver, man up et deal with it. Comme ça.
J'ai hâte de voir comment il va être utilisé, en tout cas le Grand Maverick, puis j'espère qu'il va avoir un bon tournoi. Toi qui dois être habitué de parler avec plein de monde qui ont œuvré, qui ont joué, qui ont coaché dans la Ligue junior majeure du Québec, je sais pas si tu vas t'habituer à dire la Ligue junior Québec-Maritime, André, ça a changé de nom aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça fait longtemps que je pense que ça peut-être la Ligue de l'Est, quelque chose de même.
Ouais, moi, c'était ça que je pensais, plus l'Est, ouais, c'est ça.
Je comprends que les gens au Québec peuvent être offusqués ou quoi que ce soit, là. Sauf qu'en même temps, mettez-vous à la place des Maritimes là, qui ont eu des équipes, là, ça fait maintenant là, très très longtemps, puis que c'était la Ligue du Québec, eux autres n'étaient pas là-dedans. T'sais, imaginez-vous que ça serait la Ligue on jouerait dans la Ligue de l'Ontario, puis ça s'appellerait la Ligue de l'Ontario.
Non, moi, je suis d'accord. C'était pas représentatif de la réalité. Ceci dit, c'est sûr, puis je sais que Gilles Courteau voit l'expansion des Maritimes comme un de ses grands coups puis pour la Ligue, puis comme commissaire. Puis c'est vrai que ça a fait grandir la Ligue. Ça a amené du professionnalisme avec des marchés comme Halifax, dans lequel tu as œuvré. Mais je m'ennuie des fois, tu sais, dans le temps, Saint-Hyacinthe, Granby, Trois-Rivières, Shawinigan, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Victo est encore là, Drummond. C'est étonnant, il y a des petits marchés comme ça qui ont réussi à rester là, qui n'ont jamais décroché, mais tu sais, je m'ennuie de ça parce qu'on était gâtés dans ce temps-là. Saint-Hyacinthe, je ne sais pas si je l'avais nommé, là, mais Saint-Jean, écoute, c'était une joke, là.
Ben oui, c'est un petit peu ça dans l'Ontario. Tu sais, dans l'Ontario, là, t'arrives, t'as Oshawa, Mississauga, Guelph, Niagara, Hamilton,
Kingston.
Kingston, sont tous dans le dans d'un heure, là, fait que Barry, Owen Sound, pas bien plus loin, un petit peu, mais pas bien, bien. Kitchener, c'est tout bien proche, quand même un petit peu là, ce que c'était la Ligue là, au Québec avant.
Ouais. Mais André, donc, je sais pas si on va dire la M&Q now, ou maintenant plutôt que la Q, mais en tout cas, on va s'habituer, mais oui, c'est plus représentatif de la réalité de notre Ligue junior. Et deux matchs en deux. Demain, les Sharks, et samedi, les Sabres de Buffalo. Peut-être un petit mot, c'est les Sabres, André. Je t'en ai pas parlé souvent, vous venez de les affronter. Là, tu vas les affronter à nouveau samedi. C'est un club qui a de la misère à décoller, là. Tu sais, ça fait 12-13 ans qui font pas les séries. Pourtant, il y a du talent, ils ont des gros bonhommes. Ils doivent être sur le bord, eux autres-là. Là. Même, ils ont dominé le Canadien l'autre jour. Si t'as pas de primo, oublie ça. Là.
Ils ont tout ce qu'il faut là, au niveau du talent. Là. Ils ont la vitesse, ils ont des gros bonhommes, ils ont des bons défenseurs, ils ont du gros défenseur, ils ont de la profondeur, là, ils ont tout ce qu'il faut là, pour que ça explose.
Fait que, bonne fin de semaine, bon match au pluriel, mon cher André. Un gros merci d'avoir été là.
Merci, Mario. À la prochaine.
Bye. À la prochaine. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
Et c'est le moment de retrouver Guillaume et Maxime. Salut les gars, comment ça va?
Salut Mario!
Hey, un bon match, très, très divertissant. Sans aucun doute, une déception pour les joueurs dans le vestiaire et pour le coach. Parce que après une période, en tout cas pour une bonne partie de la première période, on avait l'impression que tout ce qui avait été enseigné puis appliqué dans les pratiques fonctionnait. On voyait tout à coup des joueurs pénétrer vers l'intérieur, peut-être des joueurs devant le filet même, les gars.
Ouais, devant le filet, mais je sais pas si à 100% du temps, c'était les bons joueurs, Mario. Parce que c'était je trouve que c'était souvent les défenseurs. Puis c'est correct. Là, hier, j'ai adoré, premièrement, le début de match de David Savard. Là. On s'entend que c'était assez spectaculaire là, pour un gars qui revient d'une blessure depuis pas si longtemps, de le voir patiner de la sorte, d'être créatif offensivement, son but, puis tout ça. Ça, c'est beau, là, c'est les défenseurs, puis on le sait qu'ils appuient l'attaque depuis le début de la saison avec plusieurs buts, mais de voir les attaquants toujours en périphérie, pas être capable d'aller où ce que ça fait mal, ça, je veux pas dire que ça commence à m'agacer, mais je commence à me poser certaines questions, tu sais, parce que là, on se bat pour une place en série, puis un jour, que ce soit l'an prochain ou dans 2 ans ou dans 3 ans, il va falloir être en série puis remporter des matchs, puis c'est pas de cette façon-là qu'on va accomplir ça.
C'est le présent garant de l'avenir, effectivement. Il y a des points d'interrogation, Guillaume, là-dessus. Hein?
Ouais, c'est certain qu'il y a des points d'interrogation. On est une jeune équipe, puis c'est un travail. Puis tout dépend aussi du style d'équipe, du style de joueur, de la provenance aussi, des fois, ça change la dynamique dans la façon de jouer, puis c'est un apprentissage. Quand on dit, le gars, tu sais, on parle souvent de Slavkovski, ou, tu sais, le gars d'où il vient, ben, des fois, c'est un apprentissage, puis au fil des années, ça va changer, puis il va apprendre ce style-là. Mmh. Mais oui, en ce moment, c'est sûr que ça, c'est plus inquiétant, peut-être, en ce moment, c'est sûr.
Je sais pas, par contre, Mario, si ça s'apprend vraiment, ça. Ah. Tu sais, je pense qu'un gars comme Brendan Gallagher, quand il est rentré dans la ligue, il allait au filet. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Oui, tu peux peut-être modifier ta façon de te comporter dans un système de jeu, mais de naturellement avoir ça en dedans de toi, je veux pas dire la hargne, parce que les gars travaillent quand même très fort. Là. Hier, ils ont donné un effort, je trouve, pour être capable de compétitionner avec Pittsburgh, mais d'avoir ça naturellement, d'aller au filet, puis l'exemple parfait, c'est Brendan Gallagher. Je vais être sincère, Mario, ça commence à m'inquiéter, puis je me c'est pas en regardant les résultats, là, mon questionnement, c'est vraiment en regardant chaque séquence individuellement.
Ouais, je te comprends 100 000 à l'heure, puis il y a des statistiques qui appuient également ce que tu dis, mais pour ceux qui disent que le Canadien, là, manque de caractère, qu'on dirait qu'ils veulent pas gagner, qui prennent pas des décisions de pas aller dans le filet, c'est-tu être pas assez affamé pour gagner? Si ça fait-tu partie de ça?
Moi, je pense pas, personnellement. Là. Je pense que d'aller devant le filet, je suis d'accord avec vos points. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend. Si tu l'as jamais fait de ta vie, puis t'as marqué des buts en périphérie, puis ça a toujours fonctionné dans NCAA ou dans une ligue d'Europe, t'as jamais eu besoin de le faire. Il va falloir que t'apprennes à le faire à un certain moment donné. La hargne de Gallagher, ça s'apprend pas. Ça, l'attitude, la hargne, je suis d'accord, mais d'aller te positionner puis d'apprendre à jouer devant un gardien puis d'apprendre à prendre des retours puis à quand te lever, quand te tasser, ça s'apprend facilement, tout dépendamment de où tu viens puis ta provenance. Ouais, mais, ça pour moi, là.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Guillaume, si on parle de Slavkovski puis si on parle d'un gars de 20 ans. Mais il y a des gars qui ont 23, 24, 25 qui le font pas, là.
Ouais, c'est pas tous des recrues,
qui
là,
dans cette dérange en ce moment.
Ben, mettons, Caulfield, Suzuki, ils vont pas, honnête, là.
Non, mais Caulfield est jamais allé. Il a toujours marqué comme ça. Tu sais, où ce qui se place en ce moment, c'est ça qu'il a appris. On peut pas lui demander de se dénaturer. C'est ça qu'on a repêché. C'est un gars qui a une shot de l'extérieur, qui réussit à marquer en rentrant avec vitesse, à battre le défenseur. On peut pas dire à Caulfield aujourd'hui, va-t'en devant le filet, puis c'est pas pour ça qu'on l'a repêché. Fait que je suis comme entre deux avec ça. Il va apprendre que dans la Ligue nationale, 85% des buts se marquent là, par exemple. C'est pas comme la NCAA, puis c'est là que son apprentissage va se faire. Mais je pense que ça s'apprend en regardant. Je suis d'accord qu'il n'y aura pas la hargne de Gallagher, j'en conviens, mais je veux dire, je pense qu'il y a une leçon à apprendre pareil en grandissant comme joueur.
Martin Saint-Louis disait lui-même dans son point de presse aujourd'hui qu'il a appris beaucoup de choses pendant sa carrière dans la Ligue nationale quand il dit qu'il faut continuer de s'ajuster. La Ligue évolue, la Ligue change. Il dit qu'il est devenu un meilleur marqueur dans la Ligue nationale qu'il ne l'était dans les rangs universitaires parce qu'il n'avait pas de lancer, il n'était pas assez puissant. Il a fallu qu'il gagne de la force, puis c'est pas arrivé tout de suite en début de carrière pour que finalement il devienne un bon marqueur également pour la mettre dedans. Alors, moi aussi, je crois qu'il y a des gars qui peuvent évoluer pendant leur carrière. Ceci dit, pour en venir à Caulfield pour les Canadiens, les gars, une victoire à leurs 9 derniers matchs à domicile. Hier, 3 buts marqués en temps réglementaire, 2 par des défenseurs. Caulfield a marqué son dernier but à Montréal le 26 octobre dernier en prolongation contre Columbus. Donc, tous ces chiffres-là pour mettre la table à la question puis à l'affirmation de l'ancien coach du Canadien, Michel Therrien, qui affirmait hier sur le site de TVA Sports que le Canadien régresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat, ses observations?
Ben, régresse, c'est un mot quand même complexe pour moi là, dans cette situation-là. Je trouve qu'il y a des belles améliorations. Là. Si tu regardes Slavkovski, c'est Goulet, il y a des joueurs Strouble, même s'il est jeune, je trouve qu'il y a des belles. Il y a des joueurs qui évoluent dans la bonne direction, là, on s'entend. Par contre, si on revient à Caulfield, Suzuki, puis là, je veux être très clair, là, c'est deux très bons joueurs d'hockey. Caulfield, c'est un marqueur de but, puis il va toujours l'être, puis Suzuki, c'est le capitaine, puis je le respecte, puis c'est un bon joueur de hockey. Par contre, eux autres, c'est peut-être eux qui étaient le target de son message, tu sais, côté régression. Si on regarde Caulfield avec Duchamp, Caulfield au début de Saint-Louis, puis là, le Caulfield qu'on a en ce moment, il ressemble peut-être un peu plus au Caulfield qu'on avait sous les ordres de Dominique Duchamp. Puis si tu fais la moyenne sur 2-3 ans, ben t'sais, on s'entend qu'il y a eu une très bonne séquence à l'arrivée de Martin Saint-Louis, mais les habitudes dont on parle depuis tantôt, d'aller devant le filet puis trouver un nouveau moyen de créer de l'offensive, ça ressemble plus à ce qu'on avait sous les ordres de Dominique Ducharme. Mais je ne suis pas inquiète, par contre, parce qu'il nous l'a déjà démontré, qu'il est capable de mettre un peu plus de pression en échec avant, puis un peu plus de trafic devant le filet. C'est juste que je comprends pas pourquoi il revient pas à ça pour l'instant.
Mm-hmm. Oui, je suis d'accord. Moi je trouve hier, depuis un petit bout, je trouve que Caulfield a eu certains flashs de l'ancien. Là. Je me souviens d'une séquence dans le coin, il a patiné. Je trouve que ses premiers strides étaient vraiment solides. On l'a vu une fois coupé, déjouer un joueur, être dans l'enclair pour prendre un tir. Je trouve qu'on a vu certaines affaires, mais à l'affirmation de Michel Therrien, moi, je pense pas qu'on régresse personnellement. Je pense plus qu'on se retrouve dans où on doit être en ce moment. Tous les gars sont arrivés, un club de jeunes, l'adrénaline dans le tapis, je veux faire... Tout le monde avait une place à gagner. Là, tout le monde a une place à garder. Là, tout le monde a des attentes. Tout le monde a de la pression. Tout le monde le vit différemment, puis je pense que c'est un processus d'apprentissage. Ta première année dans la Ligue, tout est beau, il n'y a pas d'attente, tout est parfait. T'arrives la deuxième année, la troisième année, Caulfield va t'en scorer 40 ou 50, il est à 7. Tu comprends? C'est pas la même dynamique, puis c'est là que des fois, tu te mets à poser des questions, tu te mets à douter. Même chose pour certains des défenseurs. Je trouve pas qu'on régresse, je trouve juste qu'on est à la place où ce que là, on a des attentes pis on doit apprendre à vivre avec ça.
Je sais pas si vous allez être d'accord, mais ce qui permet aux gens de continuer d'être enthousiastes, comme on l'a senti hier dans le Centre Bell, si vous avez raison, il y a des individus qui progressent. Par contre, est-ce que c'est qu'on fait « wow » trop vite quand quelqu'un nous montre quelque chose pour la première fois, alors que quand on l'a vu, on s'attend à ce qu'il répète puis qu'il fasse mieux, qu'il évolue. C'est ça la différence entre quelqu'un qui arrive, qui nous fait écarquiller les yeux, puis quelqu'un qu'on a vu, qui nous a fait écarquiller les yeux la saison passée, puis que là, ben, des fois, il titube un peu comme Goulet, par exemple. Goulet cause beaucoup de revirements. Hier, c'était assez spectaculaire en ce sens. Je le donne comme exemple, pas pour qu'on se mette sur son
exemple,
cas, là.
La meilleure exemple qu'on a, Mario, c'est Strouble en ce moment. Oui, il a été excellent depuis qu'il est arrivé à Montréal.
Mais on n'a pas d'attente, puis on fait « wow ».
On n'a pas d'attente, on fait « wow », puis là, c'est rendu qu'il ne retournera plus jamais à Laval. Et ça veut pas dire, peut-être que dans 10 matchs, là, l'adrénaline va être descendue, il va revenir de 5-6 voyages, il va revenir de 10 jours sur la route, il va être fatigué, puis là, il va pogner une drop, puis il va... Tu comprends? Faut laisser le temps aux jeunes d'apprendre c'est quoi la Ligue nationale, c'est quoi grandir. Tu sais, Strouble est exceptionnel, il va être un très bon défenseur de la Ligue nationale. Mais on est déjà en train de le mettre quasiment comme dans le top 4 pour les 15 prochaines années. Laissons-y le temps. Puis mettons justement pas ça. Ça se peut que dans 10 games, il soit à Laval. Ça se peut. Mais je pense qu'on se fait des attentes tellement rapides de ce qu'il nous montre, même si lui, en ce moment, est très impressionnant. Mais c'est juste un exemple que je vais donner.
Mm-hmm. Ben, c'est des attentes, oui, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'on est tous capables aussi d'analyser une bonne séquence puis l'ensemble de tout, là. C'est Strouble, je pense qu'on est content parce qu'on est capable de voir ses qualités. T'sais, on est capable de voir ce qu'il est capable de donner s'il continue de progresser. C'est ça qui est excitant. T'sais, on l'a vécu un peu avec Jack High,
c'est American.
Mais comme tous les athlètes dans le monde, que ce soit n'importe quel sport, à un moment donné, tu as besoin d'un petit ajustement. Puis c'est ce qui fait que tu prends un pas par en arrière pour en prendre deux par en avant à un moment donné dans ta carrière. Puis, tu sais, je vais prendre l'exemple de Jack High. Je suis convaincu à 100% que le jour où il va revenir avec le Canadien, ben, il va avoir une certaine transformation, puis on va dire c'est grandement amélioré.
Mm-hmm. Par ailleurs, il y avait de l'ambiance dans le Centre Bell hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séance de tir de barrage? 12 tireurs de chaque côté et de l'ordre des tireurs également. Est-ce que c'était une opération redonnons confiance à nos attaquants en les avoyant les uns après les autres? À part Madison, c'était tous des attaquants.
Mario, hier, là, je regardais ça dans mon salon, puis j'étais crampé tout seul. Je riais.
Ah oui?
Parce que... Pour moi, il y a eu la première batch, les joueurs étoiles, puis après ça, il y a eu les gars comme moi qui ont eu des carrières comme moi, puis je voyais tellement une grande différence dans le maniement de bâton puis dans la façon de se présenter. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire parce que je regardais les Letang, les Crosby, les Malkin, puis je regardais les Suzuki, les Caulfield, peu importe, puis après ça, c'était les Pizzetta de ce monde, puis j'étais comme OK, il y a vraiment une grande différence, autant dans l'attitude que dans la technique. Puis je sais pas pourquoi, ça m'a fait rire.
Pizzetta, je pense que c'est le plus gros hype des 20 dernières années, ce shootout-là. On dirait qu'on s'attendait à un Tiger Williams 2.0 comme à Buffalo quand il avait marqué en tir de barrage. La foule s'est levée, on s'attendait à que... Mais j'ai trouvé ça drôle, moi aussi. Puis hier, j'ai trouvé ça triste pour Josh Anderson. Puis je m'en cache pas, là, je suis un de ceux qui, depuis le début, qui est ouvert à ce qu'on fasse une transaction avec Anderson. Puis, mais là, je trouve qu'il commence, ça commence à, je veux pas dire faire pitié parce qu'il met les efforts, puis il a l'attitude, puis il est fier de jouer pour le Canadien, mais d'être pas capable de scorer avec autant d'opportunités comme ça. J'ai dans la tête le tir sur réception de l'enclave qui a manqué à peu près de deux pieds. Son tir de barrage, je me dis, ah yes, il va réussir un bon tir seul, il va être capable. Il a lancé sur l'épaule, puis tellement en manque de confiance, il récupère la rondelle, puis c'est lui qui la ramène à l'arbitre quasiment en zone neutre, tellement que le lancer avait l'air facile pour le gardien. On a voulu y redonner confiance, ça a quasiment fait l'effet inverse, mais là, je trouve qu'on dirait que j'ai hâte qu'il y ait un match de deux buts. Au final, on parle du joueur de hockey, mais là, je pense à l'être humain qui en a marqué déjà 27 dans sa carrière. Et dois-tu être triste à la maison, lui, à soir? Je me mets à sa place. T'as hâte de marquer un but, t'as hâte d'être dedans, puis t'as hâte d'être capable de le faire. Puis là, tu vois des Justin Barron, des David Savard, des Struble.
Struble, le début des derniers matchs.
Là, t'es comme, c'est quoi je fais de pas correct? C'est quoi, c'est où que je vais? Il va au filet, il drive le net, il fait quand même tout pour être capable, puis ça rentre pas pantoute. Là, je commence à trouver qu'il fait pitié de ce côté-là, Josh Anderson, parce que comme être humain, comme athlète, comme attitude, je l'adore, tu sais.
Le coach a dit « Je démissionnerai pas sur Anderson » à une question de Martin McGuire aujourd'hui. « Je démissionne pas sur un joueur, à moins qu'un joueur démissionne sur lui-même. » Comment ça sonne aux oreilles du joueur qui va l'entendre, puis pour vous qui êtes passé par là, les gars?
Ben, je trouve ça merveilleux, Mario. Tu sais, c'est il y a une grande différence entre un joueur qui marque pas, mais qui amène de l'effort, puis qui pratique ses choses lors d'un entraînement, puis qui sourit, puis qui se shake pas la tête à tous les fois qu'il revient au banc, comparativement à un jeune qui est... Ou pas un jeune, mais un joueur qui boude, puis qui fait moins de temps supplémentaire sa patinoire, puis qui change son jeu. Josh Anderson, là, on a bien beau dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il travaille, puis il essaie, là, ouais. T'sais, il essaie tout, le gars. Là. Il les a les chances. Là. C'est pas que ce soit en lancer de punition, que ce soit en échappé, que ce soit un lancer sur réception dans l'enclave ou un filet désert, il est pas capable, le gars. C'est la première fois de ma vie que je vois un joueur puis je me dis, lui, c'est vraiment de la malchance. Ouais. Ça a aucun bon sens. Puis il a tellement raison, Martin. Tu dois le supporter là-dedans. C'est pas le temps de dire, là, tu vas passer ton tour puis tu vas être sa galerie de presse. C'est vraiment pas relié à l'effort puis l'attitude. C'est pas le cas. Là.
Il est quand même chanceux, Josh Anderson, qu'on se retrouve dans une équipe en reconstruction qui a pas de pression. C'est rare quand même que tu arrives dans une situation comme ça. T'sais. Mais le Canadien qui doit faire les séries éliminatoires, puis ça fait 3-4 que tu perds, puis Josh Anderson qui est payé, peu importe, qui est sur ton top 6 depuis le début de l'année avec l'avantage numérique, peut-être moins d'un dernier temps, marque pas. Je suis pas sûr qu'on serait capable d'avoir le même message. Fait que d'un côté, il est chanceux, mais de l'autre côté, Martin Saint-Louis en a besoin de Josh Anderson dans le vestiaire positivement, d'être autour des jeunes. Kent Hughes en a besoin de Josh Anderson à son top pour être capable, s'il veut faire une transaction un jour, d'avoir la meilleure valeur pour ce gars-là. Fait qu'il est dans une position où tout le monde est obligé de l'appuyer. Puis ça, c'est une chance quand même dans une carrière pour un joueur, là.
Il y en a des gars. Les gars sont fiers quand même. Moi, je pense que tout le monde arrive avec l'intention de jouer un bon match. Cole Caulfield arrive avec l'intention de marquer des buts. Ouais. Vous le savez comment ça se passe après un match, les gars. Après les conférences de presse, il y a les familles qui sont là. Il y a beaucoup de monde qui sont allés voir les gars des Pingouins. Il y a des gars qui se connaissent entre les deux clubs, Madison, etc. Fait qu'il y a pas mal de monde, vous savez, l'autre bord des rideaux. Je sais que le public, là, je les perds un peu en disant ça. Mais quand on est en dessous des gradins, pas loin du vestiaire du Canadien, hier, pas loin de la sortie et du vestiaire des femmes, Cole Caulfield était là encore en combinaison. Recroquevillé, assis à terre dans le passage, puis la tête dans ses mains. Je sais que ça n'a pas été, là, c'est pas tout le monde qui a vu ça, mais clairement, ça avait l'air d'un gars qui vit, là, peut-être sa première période de je sais pas comment l'appeler, de stress, ouais. D'insatisfaction, de grosse pression, et clairement, donc, c'est assez étonnant, d'ailleurs, qu'il ait été là, pour qu'on le voit dans cette situation-là, mais la pression est forte.
Mais Mario, ce qui est merveilleux, je trouve, avec l'édition actuelle, puis les joueurs qu'on a, c'est que je pense qu'on est tous convaincus, puis on le sait à 100% que c'est des bons gars, puis c'est des gars bien intentionnés. Puis dans ce temps-là, je pense que la foule, les partisans, les médias, on est plus portés à les supporter, tu comprends? Quand on le sait que c'est des gars qui travaillent pas, puis qui sourient pas, puis ça leur tente pas de parler à personne, puis tu comprends là, le prototype que j'essaie de t'imager, c'est, normalement, on les soutient pas trop, ces gars-là. Mais quand vient le temps des Caulfield, des Suzuki, tu sais, la gang en ce moment, t'as le goût des aider. Tu sais, t'as pas le goût de désenterrer, puis de dire ça marche, ça fonctionnera pas, puis ils auront pas des belles carrières. Tu sais que c'est temporaire, c'est vraiment juste de faire des ajustements.
Ben, tu sais, on parle de Caulfield, excuse Mario, puis c'est la première fois que, tu sais, on parlait qu'il doit s'ajuster à la Ligue nationale, puis qu'il doit apprendre à jouer le. Mais là, c'est la première fois dans la Ligue nationale qu'il vit une séquence comme ça. Il vient de signer un gros contrat. Là, la pression, là, tout est sur lui, là. Tout est là, là. Tu sais, on lui a donné les clés de la ville, puis là, présentement, il est pas capable de rendre ce qu'on lui a, on l'a payé pas, puis ce qu'on lui a offert sur un plateau d'argent. Fait que c'est sûr que pour lui, qui a toujours marqué des buts, il a battu le record de Austin Matthews dans NCAA, là. Il en marquait-tu des goals? Ça veut dire, lui, à toute fois qu'il se présente sur la glace, Pettings est dans le but. C'est dans le but. Là, il se retrouve qu'il n'y en a plus de Pettings, puis il n'est pas là. Puis c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il va vivre cette adversité-là. Là. C'est peut-être la première fois que ce gars-là passe 1, 2, 3, 4 matchs sans but. Là. C'est peut-être la première fois. Fait qu'imagine comment dans sa tête il doit se remettre en question puis se poser des questions en ce moment.
Hey, la coqueluche des amateurs, son dernier but à Montréal le 26 octobre, ça fait 2 mois à peu près, c'est pas rien. Parlant d'encourager les joueurs, les gars, je pense qu'on a eu quand même de beaux exemples, de beaux moments hier. Permettez-moi, on va s'arrêter le temps de quelques messages puis on va revenir exactement là où je veux vous amener puis ça va nous ramener en tir de barrage hier tout de suite après cette pause.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté.
Martin Saint-Louis voulait peut-être redonner confiance à ses attaquants qui marquent pas souvent et au 11e rang, 12e rang, on a eu Gallagher et Anderson hier, après Pizzetta et les autres. Mais la façon dont le public s'est manifesté, d'abord pour Gallagher et ensuite pour Anderson, j'ai trouvé ça quand même très spécial. Revivons le moment là tel qu'on l'entendait à la radio hier avec Martin McGuire et Danny Dubé. Oh.
Brandon Gallagher
pour les Canadiens. Brandon Gallagher!
Gallagher saisit la rondelle. Change de direction au de l'enclave. Revient devant, il tire! C'est l'arrêt!
Ça n'a pas fait ting-ting ni pour Anderson par la suite, les gars, mais mettez-vous dans les patins de Gallagher hier au moment d'être désigné, puis la réaction de la foule, j'étais sur place, tout le monde debout, c'était comme, on dirait qu'on était en finale, tu sais, en série, là, c'était vraiment spécial. Il y en a qui vont dire « Only in Montreal ». Puis je veux juxtaposer à ça le fait que Chris Letang me disait pas plus tard qu'avant hier, à quel point Montréal, pas juste pour les Québécois, pour d'autres joueurs, c'est spécial. Je rajoute ceci en demandant à Chris, quand il vient de me dire ça, est-ce qu'on peut dire que Sidney en fait partie, sans y mettre, te mettre des mots dans la bouche à sa place?
Ouais, non, ça c'est sûr. Sa volonté de gagner au Centre Bell est toujours plus grande qu'ailleurs, on dirait.
Et on l'a vu. Mais les gars, donc, qu'est-ce que les gars se disent de jouer à Montréal? Autant un Anderson, un Gallagher qui l'ont pas mis dedans, qu'un Crosby qui a été encore une fois le leader de son équipe hier.
Non, mais tu sais, puis tu parlais de Gallagher, là. Oui. Tout joueur que tu te fais dire, tu te tapes dans le dos. OK, Guillaume, c'est à toi. Là, tu as un 5 secondes que tu te vois déjà en train de faire le but, là. T'es comme, ah, imagine comment ça va être, là. Puis là, t'embarques, la foule embarque, puis là, c'est honnêtement, là, autant que c'est tellement le fun, le hype, puis comment les gens l'ont appuyé, puis tout ça, qu'après, on dirait que ça fait le double coup de poing dans le chest quand tu te manques, là. Tu sais, ça fait tellement mal, tu sais, comme, j'aurais tellement aimé ça, être le gars qui fait comme, bam, le but, puis là, ma pression, c'est Pingouin, puis c'est Gallagher, que tu t'imagines tout ça en 5-8 secondes que le coach te tape dans le dos, puis tac, t'as le coup de couteau direct.
Puis je peux te dire quelque chose, Mario. Moi, je l'ai vécu parce que je suis allé souvent là, en lancer en tir de barrage. C'est stressant pour un gars de quatrième trio parce que tu te dis que tout le monde le lendemain dans le journal va dire pourquoi qu'il a envoyé son gars de quatrième trio, tu sais. Tu veux pas comme.
On se disait même sur le banc.
Ouais, non. Non, mais tu sais, Mario, l'entraîneur, il te fait confiance, t'es dans le sens de la patinoire, puis tu te dis, oh boy, je peux pas le manquer parce que là, sinon, là, j'isole vraiment mon entraîneur.
Il t'envoyait 3-4e, là, genre, là. Je me souviens, Ottawa, Tampa Bay.
3e, il m'envoyait 3e.
C'était comme la lèvre.
Tu l'avais impressionné pendant les pratiques ou quoi?
Je sais pas, Mario va t'avouer que la première fois qu'il m'a tapé sur le dos, j'ai failli dire non, je peux pas, j'ai une coche dans mon patin.
Il y a un gars qui a dit, t'as tapé sur Max, hein?
N'empêche que ça fonctionnait.
C'était bon, je suis là. Ouais.
Vous vous souvenez-vous de la fois que vous avez entendu le Centre Bell réagir aussi fortement que hier quand Gallagher était désigné puis par la suite Anderson? J'ai des flashs, je me rappelle que quand Subban sort du banc de pénalité dans une série, je pense c'est contre Boston, puis il s'en va à mettre dedans en échappé, le toit voulait sauter, des arrêts comparait à Lac au printemps à Lac en 2010. Je sais pas s'il y en a qui vous reviennent, mais
6-5 Rangers.
6-5. Mario, ben oui.
Mario,
ben oui.
Le comeback de 5-0, c'était incroyable. C'était bruyant à un autre niveau.
Ça, c'est le plus fou que j'ai entendu.
La victoire contre les Pingouins, match numéro 6, le printemps à Lac, c'était spectaculaire. Moi, je pense que c'est là que j'ai entendu un building de la Ligue nationale de hockey le plus bruyant. C'était phénoménal. Il y avait, ça avait aucun
comme Alève, le but podcast en overtime.
Hey, ça, puis le show en plus, c'est le podcast, écoute.
Ah non, c'était fou, ça. Mais Mario, là, on est dans les souvenirs, là. Mais moi, là, mon plus beau souvenir, là, c'est vraiment... Je me rappelle plus si c'est la porte du banc ou de la Zamboni, là, mais quand Carey Price arrive avec son chapeau de cowboy, là.
Ah ouais.
Je vois
c'est
pas...
C'est la Zamboni.
C'est la Zamboni? C'est là 2 ans, ça?
Ouais.
Ça a aucun sens, Mario, ce moment-là, là. Non, c'était avec Piqué Subban, non?
Avec Piqué Subban?
Il était sorti du programme des joueurs, puis il avait annoncé publiquement ses problèmes, puis on savait pas s'il allait être là, pas être là, puis là, il l'a annoncé en dernier, tout en noir, avec son chapeau de cowboy.
C'est l'image de ça, Mario, ça donne des frissons. Là.
Oui, ça,
c'était beau, ça. Ah ouais, ça, c'était beau.
D'ailleurs, c'est là que tu réalises l'empreinte qu'il a laissée à Montréal, que tu fais juste y voir le bout du nez sur l'écran, puis le building vibre automatiquement, là. C'est assez impressionnant. Mais tu sais, des gars, hier, après le match, c'était le voyage des pères des Pingouins de Pittsburgh. J'ai rencontré la maman de Pierre-Olivier Joseph, notamment, qui était sur la passerelle hier avec les Carabins. C'était très, très animé sur la passerelle. Mais, tu sais, ils reviennent de cette expérience-là qu'ils ont vécu en famille avec leur père, Sidney. Clairement, Chris nous l'a dit, jouer à Montréal, c'est encore significatif pour lui. Puis, quand t'entends des réactions de même tout au long des 12 tours de barrage, c'est pas rien pour éteindre la réputation de Montréal comme d'un marché où le building vibre, là. Hein? Même si le club a pas gagné, finalement.
Ah non, puis tu sais, c'est drôle parce que les Pingouins aussi, il y a une appartenance pareille. Les gens de Montréal adorent les Pingouins avec les Sidney Crosby, les Chris Letang, ces gars-là qui sont marquants dans la Ligue nationale puis qu'on est fiers quand même que c'est des gars qui ont joué dans notre ligue au Québec, la Ligue de hockey junior maritime du Québec. On est contents de ça.
Aimez-vous le nom? Je suis pas sûr, on dirait vous entendre.
c'est un choix d'organisation, là. Moi, personnellement, tant que ça reste à la JMQ et qu'on a des jeunes qui montent dans la Ligue nationale d'ici, j'en suis bien fier, peu importe le nom. Mais on est toujours fiers, on a toujours. Puis les Pingouins, c'est ça un peu. Ils ont tellement gagné, ils ont tellement créé une dynastie depuis plusieurs années autant qu'on les aime, autant que le Canadien. On dirait que le hype de ce match-là. A comme pris en partant, ça a commencé fort pour le Canadien, puis après ça, ça a baissé, puis ça a reparti. Je dirais que tout ça, c'était une soirée. Il y en a des soirées magiques, hein, puis hier, je pense qu'il y avait quelque chose dans ce match.
Moi, Mario, je pense que les joueurs de la Ligue nationale de hockey, en général, ont hâte que le Canadien redevienne une puissance. Tu sais, je pense qu'ils réalisent toute l'histoire de cette organisation-là, puis la fierté des partisans, puis on vient de le mentionner à quel point on est bruyant. Tu sais, sans dire qu'ils aiment ça se faire battre par le Canadien, d'une certaine façon, ils ont hâte d'arriver ici puis d'affronter une équipe qui est dans le top 5 de la Ligue nationale de hockey. Ça, j'en suis convaincu.
J'adore ton affirmation. Puis sais-tu quoi? Il n'y a pas juste les autres joueurs de la Ligue nationale qui ont hâte. Les gars, merci beaucoup. Quelle belle édition encore une fois de notre duo Poche Bleue avec Maxime et Guillaume. Une bonne soirée, les boys. Un bon balado.
Salut, Mario. Salut, merci beaucoup.
Salut, les gars.
C'est 23.